France Culture.
Le journal Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Une personne a survécu à l'accident d'un avion de la compagnie Air India à Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde. Le Boeing transportait 242 personnes en direction de Londres. Nous joindrons notre correspondante en Inde, Léa Ojal. À l'approche de pourparlers avec les États-Unis sur le nucléaire, l'Iran annonce la construction d'un nouveau site d'enrichissement et une augmentation significative de sa production d'uranium enrichi. Nous ferons le point avec Christian Chéneau. Le Conseil des ministres prononce la dissolution du groupe d'ultra-droite Lyon Populaire et de la Jeune Garde, groupe antifasciste de gauche radicale, analyse d'Antoine Marette. Enfin, nous irons à Nice au sommet sur les océans. Catherine Pétillon s'est intéressée au renouvellement et à la décarbonation de la flotte océanographique. 242 personnes se trouvaient à bord de l'avion de la compagnie d'Air India qui s'est écrasé à Ahmedabad, dans l'état indien du Gujarat. Une seule a été retrouvée en vie. L'appareil, un long courrier de type Boeing 787-8 Dreamliner, avait pour destination l'aéroport de Londres Gatwick, mais il s'est écrasé peu après son décollage. Pour en savoir plus, nous retrouvons notre correspondante en Inde, Léa Ojal.
L'avion, un Boeing 787 Dreamliner, transportait principalement des ressortissants indiens, mais aussi 53 Britanniques, un Canadien et 7 Portugais. Peu après le décollage, le pilote a lancé un appel de détresse avant de perdre le contact avec la tour de contrôle. Des images montrent l'avion perdant de l'altitude, train d'atterrissage sorti, suivi d'une explosion et d'un épais nuage de fumée. Des équipes de secours et du personnel médical sont mobilisées sur place. L'appareil s'est écrasé sur une résidence étudiante de la faculté de médecine d'Ahmedabad. À ce stade, 3 apprentis médecins sont morts. Air India organise 2 vols de secours vers Ahmedabad pour les proches des passagers et du personnel d'Air India. L'un partira de Delhi, l'autre de Mumbai. Il devrait arriver sur place à 23h. Le premier ministre indien Narendra Modi a déclaré sur les réseaux sociaux être abasourdi et profondément attristé. Le drame a également suscité une vague d'émotions à l'étranger, du Pakistan à la France en passant par la Russie ou le Royaume-Uni. De nombreux chefs d'État ou représentants ont exprimé leur solidarité.
Et des enquêteurs britanniques et américains vont se rendre sur place pour participer aux investigations. Boeing dit travailler à réunir plus d'informations et se dit également prêt à aider Air India. Le titre de l'avionneur américain est en recul à la bourse de New York. C'est le tout premier crash pour un Boeing 787 Dreamliner, un long courrier entré en service en 2011. L'Iran annonce la prochaine construction d'un nouveau site d'enrichissement d'uranium. Et alors qu'un sixième cycle de pourparlers sur le nucléaire est prévu dimanche avec les États-Unis dans le Sultanat d'Oman, Téhéran annonce aussi une augmentation significative de sa production d'uranium enrichi. La France en prend note avec inquiétude. Comment analyser cette annonce du régime iranien, Christian Chéneau?
Ce durcissement de Téhéran est une réponse directe à la résolution de l'AIEA, le gendarme nucléaire de l'ONU, adopté aujourd'hui à Vienne, texte qui considère que l'Iran enfreint ses obligations en matière de non-prolifération. L'AIEA pointe du doigt des manquements concernant 3 sites non déclarés où des traces d'uranium enrichi ont été détectées. L'Iran n'a pas fourni d'explications crédibles, ce qui fait dire à l'agence onusienne qu'elle n'est pas en mesure de garantir que le programme iranien reste exclusivement pacifique. L'Iran affirme de son côté respecter ses engagements vis-à-vis de l'AIEA, mais pas ceux de l'accord de Vienne de 2015, déchiré par Donald Trump lors de son premier mandat, en annonçant un nouveau site d'enrichissement et la mise en route de centrifugeuses de 6e génération à Fordo. La République islamique défie les États-Unis avant une nouvelle session de négociations à Oman dimanche prochain. Dans cette partie de poker menteur, l'Iran fait clairement monter la pression. On sait que le point de blocage des discussions, c'est le principe même de l'enrichissement que Trump remet en question, alors que Téhéran ne veut pas y renoncer.
L'Assemblée générale des Nations unies doit se prononcer ce soir sur un projet de résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Aujourd'hui, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé la mort de 29 personnes dans des opérations israéliennes. Et Gaza est coupée du monde. Tous les secteurs du territoire palestinien en état de siège sont privés d'internet et de télécommunications. C'est ce qu'a indiqué le ministère palestinien des télécoms. Un blackout synonyme d'angoisse pour les Palestiniens qui n'ont plus de nouvelles de leurs proches coincés à l'intérieur de Gaza, Alice Morano.
Plus un seul message, plus un seul appel. Le petit territoire de Gaza ne peut plus donner de nouvelles au monde extérieur. Les ONG sont en état d'alerte. Le Croissant Rouge, l'UNRWA n'ont plus de contact avec les membres de leur personnel sur place. Et les dernières images qui sont parvenues de la bande de Gaza sont celles des distributions alimentaires qui tournent à la catastrophe. De quoi renforcer l'inquiétude des familles palestiniennes qui n'ont plus de nouvelles de leurs proches restés à Gaza. Mardi déjà, le nord de la bande de Gaza et Gazaville ont vu leur accès à Internet et aux télécommunications coupées, et ces dernières heures, c'est le centre et le sud du territoire qui ont également perdu le contact avec l'extérieur. Une attaque d'Israël sur la dernière ligne principale de fibre optique a causé cette coupure géante, selon le ministère palestinien des télécommunications. Le ministère ajoute que ses équipes de maintenance ne peuvent pas accéder aux câbles endommagés pour des raisons de sécurité et précise que les autorités israéliennes ont empêché les réparations sur les lignes de télécommunications à Gaza depuis maintenant des mois.
Alice Moreno depuis Ramallah. C'est une proposition de loi qui vise à taxer les grandes fortunes, ceux dont le patrimoine dépasse les 100 millions d'euros. La taxe Zucman, inspirée par les travaux de l'économiste du même nom et portée par les écologistes, est débattue en ce moment au Sénat. Elle a très peu de chances de passer. Bonsoir Laurence Méride.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du Sénat. La Chambre haute, à majorité à droite, est farouchement contre le texte et lors des débats, ses arguments ont tendance à ulcérer la gauche.
Oui, 10 minutes de discours de la ministre des Comptes publics et le ton est donné.
Il est en effet manifeste que la proposition de loi examinée ce jour, instaurant, je cite, un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches, est à rebours des objectifs du gouvernement.
Dans un hémicycle quasiment vide, Amélie de Montchalin poursuit.
Une telle contribution serait à la fois confiscatoire et inefficace. Si elle était adoptée, ferait immédiatement fuir les foyers les plus aisés.
Alors pour éviter cet exil fiscal, quand vient son tour de grimper au pupitre, le sénateur Les Républicains et rapporteur du texte, Emmanuel Capu, a une proposition alternative à faire.
Il me semble que le mécanisme qui est proposé n'est pas le bon, que d'autres existent. Plutôt que d'augmenter les impôts des très très riches, baisser les impôts de tout le monde pour que les gens normaux se trouvent dans la même situation que les très très riches.
Ces ultra riches, Xavier Jacovelli, sénateur Renaissance, se défend d'en être l'avocat, mais fustige un impôt d'une démagogie inquiétante dans ses conséquences. Indignation à gauche, l'écologiste Thomas Dossus lui répond par une question.
Existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on est autorisé à payer moins d'impôts que le reste de la population ? À la veille des débats budgétaires qui s'annoncent difficiles, si vous n'intégrez pas les plus fortunés dans la communauté nationale en rattrapant cette injustice fiscale, alors les efforts que vous comptez demander aux Françaises et aux Français seront inaudibles, absolument inaudibles.
Et Yannick Jadot, de renchérir, le Sénat est-il plus soucieux de protéger les privilégiés ? Pour le socialiste Thierry Cozic, en tout cas la droite, peut ce soir faire un choix responsable.
J'appelle mes collègues de la majorité sénatoriale à ne pas être du mauvais côté de l'histoire.
Peu de chances que le souhait du sénateur soit exaucé alors que les débats se poursuivent. Une partie des centristes, les indépendants ainsi que la droite majoritaire ont d'ores et déjà prévu de voter contre.
Laurence Méride avec les moyens techniques d'Olivia Branger au Sénat. Augustin Augier, nommé à la tête du secrétariat général à la planification écologique, rattaché au Premier ministre, il est chargé de coordonner la politique et les ambitions environnementales et climatiques du gouvernement. Augustin Augier, ancien délégué général du Parti écologiste, a eu sa candidature vivement soutenue par Matignon. Le gouvernement a présenté aujourd'hui son nouveau plan contre la pollution plastique, alors que le retard de la France sur les objectifs européens lui coûte 1,6 milliard d'euros par an. L'État veut mettre fin à l'achat de bouteilles et d'emballages pour boissons contenant du plastique d'ici 2026. Quant à la stratégie engagée en 2022 pour réduire, réemployer et recycler les emballages à usage unique, elle est en cours de révision et ses ambitions seront renforcées, nous dit-on, dans un décret fin 2025. Nous retrouvons maintenant Catherine Pétillon au sommet de l'ONU sur les océans à Nice. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Aurélie.
Vous nous parlez ce soir de la flotte océanographique française qui explore les océans. Certains de ces bateaux vieillissants vont bientôt être sortis de l'eau et c'est dès aujourd'hui que se prépare leur remplacement. La flotte océanographique française opérée par l'Ifremer et sa filiale d'armement Genavir a présenté à Nice un livre blanc. C'est le résultat d'un an de travail avec plus de 200 chercheurs des sciences marines. L'idée étant d'imaginer la flotte océanographique de demain. Elle est actuellement, Catherine, composée de 17 navires et engins sous-marins.
Oui, ils ont chacun leur spécialité. Explorer et cartographier les fonds marins, mesurer les effets du dérèglement climatique. Le Thalassa, lui, il s'occupe surtout d'évaluer la ressource de poissons. Ce navire de 75 mètres, il est en ce moment à quai ici à Nice et j'y ai retrouvé Olivier Lefort. C'est le directeur de la flotte océanographique française.
Donc là, on est dans la timonerie de Thalassa. Donc devant nous, on a l'ensemble des écrans de navigation. Et puis, spécifique à un navire océanographique, un aileron tribord qui va permettre de conduire toutes les opérations de mise à l'eau et de récupération des équipements scientifiques.
Car ces bateaux sont de véritables laboratoires. Les chercheurs travaillent sur des prélèvements en mer, mais aussi grâce à toute la technologie embarquée. Laurent Berger est responsable de l'acoustique à Ifremer.
Il y a une partie escroissante devant le navire où installer un certain nombre de sondeurs. Un sondeur va nous donner en quelques heures une carte du fond marin depuis la surface jusqu'à 6000 mètres de profondeur parce que l'onde acoustique va se propager depuis le bateau jusqu'au fond et revenir jusqu'au bateau.
Trois des quatre navires hauturiers de cette flotte, dont le Thalassa, arrivent en fin de vie d'ici 5 à 15 ans. Il faut donc rapidement les remplacer. Les nouveaux bateaux, eux, devront être capables de répondre à des besoins scientifiques qui évoluent, d'intégrer les innovations technologiques, comme les drones de surface, par exemple. Et c'est aussi l'opportunité de rendre la flotte océanographique moins polluante, insiste Olivier Lefort.
Les navires océanographiques du futur, ce seront sûrement des navires hybrides, ayant suffisamment de puissance pour déployer des engins lourds comme des robots, ou des sous-marins habités, mais qui vont être aussi capables de naviguer à la voile sur les transits, de s'alimenter en courant électrique de quais décarbonés. Donc tout ça va participer de la décarbonation de notre activité.
Un navire de ce type coûte entre 100 et 200 millions d'euros. C'est long à construire. C'est donc des investissements publics des prochains mois que dépendra l'ambition donnée à la connaissance des océans.
Catherine Pétillon en direct de Nice avec Jérémy Thuil et la technique. La marque de prêt-à-porter Jennifer est partiellement reprise par le groupe Beaumanoir. Après des coupes dans les effectifs, un redressement judiciaire, un changement de nom, une liquidation, cette énième renaissance doit permettre de sauver plus d'un tiers des quelques 1000 emplois qui étaient menacés. Après des échanges tendus mardi dernier entre députés et influenceurs, la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a entendu des responsables du réseau social. Pendant près de 5 heures, les représentants de TikTok ont tenté de mettre en avant ces points forts. Ils ne sont cependant pas parvenus à rassurer les élus sur la plateforme chinoise, Pierre Robert.
Oui, face aux inquiétudes soulevées par les députés, les responsables de TikTok se sont efforcés de mettre en avant la qualité de leur modération. Grâce à l'intelligence artificielle et à 509 modérateurs francophones, 98% des contenus sont en effet modérés de manière proactive. Ce que vous nous exposez est en complet décalage avec la réalité sur TikTok. On contredit les membres de la commission et Arthur Delaporte, son président, interroge...
Un influenceur qui dit dans une vidéo « Si ta femme s'habille comme une pute, c'est une pute ». Est-ce que ce type de propos sont contraires aux règles de la plateforme ?
Dans les rangs des responsables de TikTok, la réponse met du temps à venir et les députés en rajoutent en affirmant qu'il est facile pour les utilisateurs de contourner la modération. Réponse de Niki Sou, responsable de la sécurité numérique chez TikTok.
Nous en avons pleinement conscience, nous savons que les utilisateurs font ces petits changements pour contourner la modération automatique.
Tout au long des trois auditions qui ont émaillé la journée, une question en particulier a cependant été posée à maintes reprises, ici par Laure Miller, la rapporteure de la commission d'enquête.
Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez techniquement la possibilité de vérifier l'âge d'une personne qui s'inscrit et qui arrive sur TikTok.
La commission reproche surtout à TikTok de ne pas être proactif et de refuser de mettre en place des systèmes de contrôle de l'âge dès l'inscription sur le réseau social. Le président de la commission, Arthur Delaporte, estime en effet que 2/3 des mineurs sur la plateforme ne seraient pas détectés. Du côté de TikTok, on se défend en assurant que plus de 600 000 comptes de mineurs de moins de 13 ans ont été supprimés en 2024 et qu'il existe désormais des systèmes qui détectent les utilisateurs qui prétendent être des adultes quand ils seraient en réalité des mineurs. Réponse de la rapporteure de la commission.
Très bien, alors vous comprendrez qu'on n'est pas satisfait par votre réponse.
La commission d'enquête rendra son rapport en septembre prochain.
Pierre Robert. L'attaque avait causé une très forte émotion au sein de la pénitentiaire. Depuis le 2 juin, la cour d'assises spéciale de Paris juge l'auteur de l'attaque dans la prison de Condé-sur-Sarthe en mars 2019. Deux surveillants avaient alors été grièvement blessés par ce détenu radicalisé, Michael Chiolo, et sa compagne qui, elle, a trouvé la mort lors de l'assaut livré par le RAID. Les deux surveillants qui témoignent cet après-midi, le premier est à distance, il est toujours en poste dans la prison où il a vécu l'agression. Il est très marqué, Florence Turme, par l'attentat.
Il a choisi de témoigner en visioconférence, demande à rester anonyme, signe de l'inquiétude qu'il habite depuis l'attaque, qu'il résume, débit de voix rapide et souffle court en une dizaine de minutes. Ce jour-là, le jeune surveillant, 28 ans à peine, et son collègue se rendent à l'UVF, l'unité de vie familiale, dont Mickaël Chiolo demande à sortir, prétextant un malaise de son épouse. La porte s'ouvre, le détenu évoque un souci avec la console, je jette un œil et je reçois un coup au visage. Puis d'autres encore, avant de réaliser que le prisonnier le frappe avec un couteau pendant que sa compagne s'acharne sur son collègue. Un morceau de lame est resté fiché dans son omoplate gauche qui le fait toujours souffrir. « Mais j'ai toujours mes bras, mes jambes », ajoute-t-il, conscient d'avoir échappé à la mort. Ça a été violent, sauvage. Il essayait de me relever la tête en arrière pour m'égorger. Dans son box, Mickaël Chiolo ne le lâche pas des yeux. Au premier jour de son procès, l'accusé a revendiqué son acte sans aucun regret et insulté l'administration pénitentiaire. Le jeune gardien réussit à se dégager à coups de pied, retourne porter secours à son collègue. J'ai encore les images, elle était en train de le lyncher. Les deux assaillants se retranchent dans l'UVF, où le raid donnera l'assaut. 4 ans d'arrêt, il a repris le travail à Condé. Ça a été compliqué, mais j'ai été soutenue par mes collègues, la direction. Surveillant, c'est pas un rêve de gosse, conclut le témoin, mais c'est un métier qu'on apprend à aimer.
Le verdict est attendu le 4 juillet prochain. Deux groupes dissous en Conseil des ministres ce matin. L'un appartient à la mouvance d'ultra-droite, Lyon Populaire. L'autre à la gauche radicale, la Jeune Garde. Ce groupe antifasciste a été fondé par un député de la France Insoumise. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Aurélie.
Alors ces décisions étaient attendues. Elles avaient été annoncées par Bruno Retailleau en avril dernier, Antoine.
Le 29 avril dernier, oui précisément, le ministre de l'Intérieur avait lancé les procédures contradictoires visant ces deux mouvements et même un troisième. Urgence Palestine, à qui il est reproché, je cite, de faire l'apologie d'une organisation terroriste comme le Hamas, d'appeler à l'intifada sur le territoire national et de provoquer à la haine, à la violence ou la discrimination des Juifs. Mais selon Beauvau, le dossier est toujours en examen. Pour les deux autres, en revanche, la dissolution est actée. Lyon Populaire, pour apologie de la collaboration avec le nazisme, provocation à la haine, à la violence et à la discrimination envers les étrangers. On peut s'interroger sur l'efficacité d'une telle mesure. Lyon Populaire est une reconstitution du groupe dissous Bastion Social, lui-même successeur du GUD, également dissous. Si personne ne semble s'émouvoir de l'interdiction de Lyon Populaire, il n'en est pas de même pour la Jeune Garde, accusée par le gouvernement de provoquer des agissements violents contre les personnes. Indignation à gauche, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce, je cite, « un signal terrible de contresens politique » et d'ajouter de façon énigmatique « nous prendrons nos dispositions pour l'avenir ». Le porte-parole de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, également député LFI, annonce qu'il va contester cette dissolution devant le Conseil d'État. La secrétaire nationale des Verts, Marine Tondelier, affiche son soutien à la Jeune Garde et ironise sur l'annonce de Bruno Retailleau « ne rien laisser passer, sauf le fascisme ». Satisfaction en revanche de l'extrême droite, le député RN Julien Odoul se félicite de la dissolution d'un groupuscule, je cite, « violent, fasciste et antisémite d'extrême gauche ». Mais Julien Odoul se garde bien de commenter la dissolution de Lyon Populaire.
Antoine Maret, c'est l'un des discours les plus célèbres de l'histoire moderne de France. Le texte de l'appel du 18 juin 1940, prononcé par le général de Gaulle depuis Londres à la BBC, a été remis par ses petits-enfants aux Archives nationales. La remise a eu lieu à la maison d'enchères Arcurial, qui s'était occupée de la vente de la succession de Philippe de Gaulle, fils aîné du général et décédé en mars 2024. Bonsoir Laïla Saïdi.
Bonsoir.
Parmi un grand nombre de documents se trouve donc le manuscrit de ce fameux appel.
Et oui, les deux pages originales du discours du 18 juin, recto verso, manuscrit et raturé par endroits, ont été remises à la directrice des Archives nationales en présence des 4 petits-enfants de Gaulle. Les deux feuillets avaient d'abord été gardés par Yvonne de Gaulle, l'épouse du général, avant d'être conservés dans des coffres-forts et découverts lors de la succession de l'amiral Philippe de Gaulle. Les petits-enfants avaient connaissance de ces documents, mais il n'y avait pas accès, précise Yves de Gaulle, un des petits-enfants, pour qui le moment de la transmission est venu sans état d'âme.
Pour moi, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une innovation intellectuelle ni psychologique. C'est vrai, je suis désolé, je ne peux pas vous dire que j'ai le cœur qui bat. Moi, j'ai plutôt le cœur qui bat parce que le document a existé avec tout ce qu'il a représenté. mais qu'ils reviennent aujourd'hui aux archives nationales me paraît tellement normal. Pour moi, c'est le destin, entre guillemets, tout à fait naturel de l'ensemble de ces documents. Il n'y a pas que l'appel, hein, il y a beaucoup d'autres choses.
Au total, ce sont 1300 autres documents, dont 70 correspondances entre Georges Pompidou et le général. Ces documents vont rejoindre les archives nationales. Ils n'ont pas été mis en vente par Arcurial en décembre dernier, car ils avaient en réalité déjà le statut d'archives publiques. Bruno Ricard, chef du service interministériel des archives de France.
On a depuis 2018 une jurisprudence du Conseil d'État qui a établi que les documents produits par le général de Gaulle comme chef de la France libre à partir du 16 juin 1940 sont des archives publiques. Alors c'était resté entre les mains de la famille. Ils n'ont pas réalisé que ces documents étaient des archives publiques. D'autant que avant que les documents soient remis à Arcurial en prévision de la vente, on ne savait pas ce qu'il y avait dans les archives. Et donc c'est parce qu'il y a eu la remise des documents à la maison Arcurial que la maison Arcurial s'est interrogée sur le statut, nous a contactés très en amont de la vente. C'est là qu'on a constaté qu'il y avait ces documents publics qui ont été mis de côté.
Le texte de l'appel du général de Gaulle sera exposé à partir de mercredi prochain, le 18 juin, et durant tout l'été à l'hôtel de Soubise, siège parisien des Archives nationales. Le manuscrit, par son exceptionnalité, rejoindra ensuite l'armoire de fer des Archives nationales où se trouvent des documents majeurs de l'histoire de France.
Et je renvoie également à notre site internet sur lequel vous découvrirez une info culturelle sur ce fameux manuscrit de l'appel du 18 juin. Le temps sera orageux sur le nord-ouest demain matin et sur le sud-ouest en soirée. Des chutes de grêle sont possibles et de fortes pluies. Le soleil sera généreux dans l'est, mais il fera lourd. Les températures seront élevées au lever du jour, entre 13 et 20 degrés. Il fera très chaud l'après-midi, de 22 en Bretagne à 36 en Bourgogne. Ce journal a été préparé avec Antoine Boucher.